Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Gilles est chez Charles. Ils sont assis sur le lit. Le téléphone sonne. Charles décroche. Allô? Oui? Gilles voit que Charles blêmit. Vous ne pouvez pas attendre quelques jours? Bien. Bien. Il remet le téléphone en place. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, nous sommes amis. C'est un mec de Quentin qui a téléphoné. Il veut que j'apporte de suite à Quentin ce que je lui dois. Je n'ai pas d'argent. Tu dois beaucoup? Gilles sent que Charles est en danger. 5 000. Et si tu n'y vas pas, ils viendront tabasser. Gilles met la main sur l'épaule de Charles et lui dit « Écoute Charles, j'ai sûrement livré suffisamment. Je peux. Non, je ne peux pas accepter. Mais ne sommes-nous pas amis? Alors, je ne peux pas accepter. Si accepte, sinon on ne se reverra plus. » Bien, Charles honteux, car il sait que Gilles est d'origine modeste. Gilles ne sait pas pourquoi, mais il sent du danger pour Charles. Il veut le sauver et que ça serve à quelque chose. Écoute-moi bien. Tu vas me donner l'adresse du rendez-vous et c'est moi qui irai. Pourquoi? Parce que si j'y vais, il faut me promettre de ne plus les revoir. De toute façon, j'avais décidé de ne plus les revoir. Bon, et bien alors, puisque tu ne veux plus les revoir, J'irai donc, donne l'adresse.
Charles la lui donne.
Gilles, tu me sauves la vie. N'as-tu pas dit que j'étais ton ange gardien? Je te promets, Gilles, que je vais changer de vie.
J'en suis sûr, Charles, parce que...
Quoi qu'il t'arrive, il faut que tu le fasses pour nous, pour toi.
Gilles se sent fort, car il a vraiment l'impression de se sacrifier pour son ami.
Ce geste va te sanctifier.
Charles prend Gilles et le plaque contre son épaule.
Et si j'y allais? Non, c'est à moi d'y aller. Laisse-moi faire. Il ne se passera rien.
Charles l'embrasse fortement sur le front, les joues,
hume son odeur.
Gilles se dégage.
J'y vais, autrement les caisses d'épargne seront fermées.
Et il quitte la pièce.
Une fois parti, Charles sent que Gilles est en danger. Et que Gilles a senti ce danger, qu'il sait qu'il va vers un danger terrible.
Charles est effrayé.
La mort! Mon Dieu, la mort! C'est pour me sauver! Me purifier.
Il panique.
Il faut que j'y aille moi aussi. Il faut que j'aille au rendez-vous.
Il prend sa veste qui était sur la chaise et sort.
Arrivé dehors, Charles court dans les rues désertes pour attraper Gilles. Il a peur et sent le danger.
Gilles est arrivé au lieu du rendez-vous. Il entre dans une allée.
Puis sur la minuterie, elle ne marche pas. Tout à coup, il se sent attrapé par derrière et un souffle au cou.
Toi qui viens pour Quentin?
Oui.
Tu as l'argent?
Oui.
Où est-il?
La poche droite de ma veste.
L'œil fouille la poche et sort l'argent.
Et se sauve en poussant Gilles contre le mur.
Gilles s'apprête à sortir de l'allée.
Voit derrière lui dans le noir.
Dis donc toi, n'es pas venu pour payer Quentin?
Gilles se retourne.
Une masse se plaque contre lui.
Réponds.
Oui?
L'argent.
Je viens de le donner.
Tu me prends pour un con, dis.
Où est l'argent?
Je ne...
L'homme le fouille.
Il est venu sans argent.
L'homme se met à le cogner en le maintenant.
Il aimerait en s'en sortir, mais il ne peut pas. L'homme lui prend la tête avec les deux mains et la lui cogne contre le mur.
Le visage de Gilles reste figé. Son corps tombe comme un pantin. L'homme sort de l'allée en vitesse. Il ne bouge plus. Charles arrive dans la rue. Au sortir de l'immeuble, un homme. Il court et entre dans l'allée.
Première des choses qu'il voit, c'est Gilles à terre. Gilles!
Il court vers lui.
Se penche.
Touche. Voit qu'il est mort.
Son corps s'effondre. Il tremble de tout son corps. S'assoit à terre à côté de Gilles. Il met la tête sur ses genoux. Tu t'es sacrifié pour moi. Pour que je change de vie.
Il lui caresse ses cheveux.
Je t'ai juré. Je m'amenderai, je te le jure encore.
Il lui a un baiser sur le front.
C'est toi que j'aime vraiment. Dès le premier jour, je t'ai aimé. Mais tu m'as timidé un peu. Et puis, j'avais peur de paraître ridicule. Alors, pour avoir l'air libéré, je me suis lancé dans cette histoire. Mais c'est toi qui avais raison. Le bonheur ne se trouve pas là. Nous n'aurions pas dû revenir de Biarritz. Tu te souviens?
Et Charles continue à parler. Et à force de parler à Gilles, son esprit perd la notion du temps, de la réalité morbide. Le monde n'existe plus.
Il n'y a que lui et son ami. Que lui et son ami.
Le jour se lève petit à petit. Charles, tout en baissant son ami, chante une litanie à lui.
Les saules sont toujours pleureurs. Viens pleurer sur mon épaule. À quoi bon ne ressouvient tant ce qui fut jamais.
Petite grosse femme, veste rouge, jupe noire, sort de son appartement. Elle descend les escaliers. Voit Charles et Gilles, s'approche d'eux.
Faites-vous ici, qu'à votre ami.
Charles le regarde, sourit. Il m'a sanctifié. C'est mon ange gardien.
Et il recommence à chanter.
Mais plus je meurs, entends la chanson des saules. Les saules sont toujours pleureurs. Viens pleurer sur mon épaule.
La femme remonte chez elle. Et téléphone à police secours. Charles a été mené à l'hôpital, on l'a examiné Il a reçu un choc nerveux. La famille a été prévenue. Il a été mis dans une chambre seule. Il est calme dans son lit. Il passe des heures à regarder le plafond. Il ne parle pas. La famille est venue, mais il fait comme s'il ne les connaissait pas. Le commissaire est venu interroger la famille et leur a dit qu'il pensait qu'il avait tué accidentellement son ami. Mais comme la famille lui a dit que c'était impossible qu'il fasse une chose pareille, et comme ce sont des gens très influents, l'enquête continue. Un homme est venu déposer. C'est une personne qui habite la rue où s'est passée l'attaque. L'homme a dit qu'il avait entendu des cris et du bruit et qu'un homme était sorti de l'allée avant que Charles ne vienne. Charles reprend petit à petit ses esprits. Il a changé. Ce n'est plus le même. Il voit les choses avec plus de distance. La police l'a interrogé. Puis, il a demandé à quitter l'hôpital. Après examen, ça lui a été accordé. Ses parents sont venus le prendre en voiture. Sa mère a eu très peur.
« J'ai déjà une fille en maison. Mon Dieu, faites en sorte à ce que lui ne sombre pas. »
Le lendemain de son arrivée, Charles se dit « Je porte en moi l'âme de Gilles. J'ai été sanctifié et renais en Gilles purifié. Je dois voir le monde d'une autre manière. » La sienne. La vie reprend. Ou plutôt, une vie remplace l'autre. Charles a décidé de poursuivre ses études, pas pour avoir plus tard une bonne place, mais pour s'instruire. Il a transformé sa chambre, enlevé tout le superflu, adieu les posters, les modèles réduits de voitures de course. Il a fait un tri dans ses disques et livres. Une fois par semaine, il va sur la tombe de Gilles se recueillir. La vie continue. Les parents inquiets l'ont observé au début, puis voyant qu'il se comporte normalement, ils le laissent. Et chacun retrouve ses propres peines en solitaire. La mère continue à souffrir à cause de son mari. Elle n'en peut plus et a décidé de partir en Italie avec une de ses amies. Le père ne rentre que très rarement chez lui. Il est avec sa jeune maîtresse. La sœur de Charles n'est pas revenue de la maison de santé. Il ne reste à la maison que l'oncle qui se fait fantôme, Charles et le grand-père. Chaque fois que Charles croise son grand-père, surtout au repas, il a honte de ce qu'il lui a dit. En le voyant manger avec de plus en plus de difficultés, il en a les larmes aux yeux. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un face de l'autre sur des fauteuils, Charles se dit « c'est Gilles le grand-père qui avait raison. Il est comme moi, puisque je porte Gilles en moi.
Charles aimerait parler à son grand-père, mais il n'ose pas.
Le grand-père est chez son médecin. Il se sent de plus en plus las. Il a de la peine à respirer et à manger. Après l'avoir examiné, le médecin lui dit
« Vous ne pouvez pas rester ainsi. Il faut vous hospitaliser. Vous avez besoin d'aide pour respirer et manger. »
« Des tuyaux, des machines. Vous voulez que j'aille dans un laboratoire ?»« Non, je veux mourir comme un homme, chez les hommes et pas chez les robots. »
« Il arrivera bien un moment, vous serez obligé. » »«
Non, laissez-moi mourir, debout. » »«
Un jour ou l'autre, on vous retrouvera sans connaissance. » »«
Non, je me tuerai avant. »
Si vous en avez la force.
Je l'aurai, ou une autre personne l'aura pour moi.
Vous croyez vraiment pas à la science?
Oui, mais elle a des limites.
Grand-père et Charles sont au salon. Il y a encore une fois quelque chose qui ne passe pas dans l'œsophage. Ceci l'empêche de respirer correctement et d'avaler. C'est extrêmement pénible. Mais que faire? Il faut supporter, rester un homme jusqu'au bout. Ceci est si épuisant que quelquefois il a envie de se laisser aller. Mais non, il tient le coup. La tête lui tourne, il semble s'affaiblir. C'est l'air qui lui manque, il étouffe. Il s'affaisse pour de bon.
Se réveille dans son lit. Son médecin et Charles sont penchés vers lui. Le médecin lui dit
« Je vous avais prévenu, il faut vous faire hospitaliser. »«
J'en ai pour combien de temps à vivre ?»«
Dieu seul le sait.
»« Un mois, 6 mois, dites-moi la vérité. »«
2 mois, 3 mois. » Le docteur lui serre le poignet.
« Merci docteur. » »«
Nous allons vous laisser vous reposer maintenant. » Et Charles et le médecin s'éloignent.
Charles, reviens après avoir accompagné le médecin.
Bien, grand-père.
Et ils sortent de la chambre.
Le médecin dit à Charles, prévenez le reste de la famille. Il en a pour 2 ou 3 mois. Il faut le convaincre à se faire hospitaliser. Vous avez bien compris.
Une fois avoir accompagné le médecin, Charles retourne vers son grand-père.
Il est très ému. Il s'était rendu compte qu'il n'était pas bien, mais de là à le savoir qu'il était mourant,
et s'approche du lit. Le vieil homme semble mieux respirer, se penche vers lui et lui prend la main qui est restée sur les draps blancs, une main maigre, lisse et froide.
« Charles, tu as entendu le médecin. J'en ai plus pour deux à trois mois à vivre. Je ne veux pas finir mes jours à l'hôpital, ni dans cette chambre d'ailleurs. Il faut que tu m'aides. Veux-tu m'aider à passer le plus agréablement possible ces derniers mois ?»«
Oui, grand-père. »«
C'est bien, mon petit. Tu agis avec froideur. Je n'ai pas besoin de pleurs ou de généraliades. » Qui ne servent à rien, d'ailleurs. Compris qu'il fallait me prouver ton amour avec sang-froid. Tu sais, je t'ai toujours aimé, même lorsque j'étais en colère contre toi.
Moi aussi, je vous aime beaucoup, grand-père, et je regrette.
Parlons plutôt de ce que j'aimerais que nous fassions. Il y a une chose qui me ferait très plaisir. C'est que tu me mènes passer quelques jours au lac du Montrion, c'est en Haute-Savoie. Acceptes-tu ?
Charles se dit, et si durant le séjour il lui arrivait quelque chose ? Il regarde son grand-père, il a pitié de lui. Bien, j'accepte, je veux bien, grand-père.
Merci, mon petit. Nous partirons demain matin. C'est toi qui conduiras.
Charles a laissé un mot pour ses parents, il a fait les valises, aidé son grand-père à s'habiller et ils sont partis. Il fait beau, nous sommes en juin.
Beau temps pour le lac.
Ils sont partis à 9h. Arrivés en début d'après-midi. Le voyage s'est bien fait sans difficulté. Le grand-père semble aller mieux. Ils se sont arrêtés devant un hôtel chalet au bord du lac. Une femme les a reçus et leur a montré deux chambres communicantes. Pièce au mur en frisette de bois, lit à une place avec un gros édredon dessus, une table en bois, une chaise et une armoire. Les deux chambres se ressemblent. Avoir défait leur valise, Charles reste près de son grand-père qui s'est allongé sur le lit. Comment vas-tu?
Quand on sait que l'on va mourir, tu tu sais ce que l'on ressent. Rien. Si l'on accepte la mort, tout devient calme. Mais il ne faut surtout pas lutter avec elle. Surtout pas.
Quand le grand-père se soit reposé, ils sont allés faire le tour du lac. C'est un lac de montagne où se déverse une cascade qui descend des montagnes.
Je voulais revenir ici. C'est parce que j'y ai été très heureux. J'avais 20 ans et j'étais parti avec une jeune fille que j'aimais. Elle s'appelait Fleur. C'était la première fois que j'aimais. Ce coin était le paradis pour moi. Malheureusement, ma famille ne voulait pas que nous nous marions.
Après une demi-heure de marche, ils se sont assis sur un tronc d'arbre près du lac.
J'aurais aimé essayer de faire comprendre. Et maintenant, c'est trop tard. C'est que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est l'amour et non le plaisir.
J'ai compris, grand-père. Et puis la mort de Gilles, je le sais. Vous l'aimiez beaucoup, Gilles, grand-père.
Oui. C'était un très gentil garçon. Très gentil. Rentrons maintenant. Il se fait tard.
Dans la salle du restaurant de l'hôtel. Le grand-père a pris une bouchée, puis s'est arrêté. Charles l'a vu. Ça ne passe pas.
Ça passe difficilement. Je ne peux pas. Je demanderai une bouteille de jus de fruits pour la nuit.
Tu souffres?
Il faut aller au-delà de la souffrance. Au-delà.
Oui.
Dans la nuit, Charles a entendu les râles de son grand-père et est accouru dans sa chambre. Le grand-père est dans son lit, la mine défaite, le visage livide et en sueur. Charles s'approche de lui. S'est penché. Vous n'avez pas grand-père?
Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je me sens partir.
Vous voulez que j'appelle un médecin?
Non. Surtout pas. Tu le feras après. Il faut pas. avoir peur de la souffrance, de la douleur. Ce n'est rien. Et pas peur, c'est la vie. Il faut partir. Partir.
Mais grand-père,
non, laisse, personne n'y peut rien. Il faut rester un homme jusqu'à la dernière minute, être stoïque.
Charles a les larmes aux yeux.
Je veux mourir devant toi. C'est pour te montrer comment on doit mourir et que tu n'aies plus peur. Gilles est mort, c'est pour t'apprendre à vivre. Puisqu'il t'a appris à vivre, moi je t'apprends à mourir. Comme cela, tu seras un homme libre de toute contrainte. Gilles en mourant a emporté ton mauvais côté. C'était ton double. Moi, montrant comment un homme doit mourir sans avoir peur, je vais t'enlever la peur et la faiblesse, même la faiblesse de ne pouvoir aimer. Ne pleure pas, Charles, ne pleure pas. Tu seras bientôt un homme libre. Tu dois être heureux.
Puis, il s'est arrêté de parler. Des gouttes de sueur perlent sur son visage. Charles prend un mouchoir et le passe sur le visage. Tu as besoin de quelque chose?
Oh, j'attends. Oh si, ouvre la fenêtre. Je veux entendre la nuit.
Et Charles exécute. Retourné vers son grand-père. Il s'est agenouillé, lui serre la main. Le rôle du grand-père recommence. Ses lèvres sont blanches et sèches. La fraîcheur de la nuit entre dans la pièce.
Oh, les dernières minutes, je vais râler, hurler, crier peut-être, mais ce sera malgré moi. Mon esprit restera net. La nuit est douce ce soir. Donne-moi à boire.
Charles remplit le verre qui est sur la table de nuit. Et du jus d'orange. Il se penche et le met à la bouche du grand-père qui essaie d'avaler une gorgée. Mais il fait la grimace et crache sur le sol le liquide.
Je te demande pardon.
Ce n'est rien. Charles remet le verre sur la table.
N'oublie pas une chose, mon petit. L'amour, c'est tout. Mais, méfie-toi des amours effrénés. ou destructrices. Les femmes peuvent être cruelles, égoïstes et perdre l'homme. Aime et reste lucide. Aime. Ne te laisse pas prendre non plus par le monde, l'argent, la mode. Reste toi-même et noble. Tu vois, j'ai mal, mais tout se passe bien. N'aie pas peur de garder ta main dans la mienne. Elle ne risque pas de te faire mal. Elle n'a déjà plus la force. Et bientôt, elle ne sera plus qu'une chose inerte. Un mort ne risque pas de faire mal. J'aurais aimé rester plus longtemps ici. Nous n'avons fait qu'une seule fois le tour du lac. Embrasse-moi. Je t'aime, tu sais.
Charles se penche et l'embrasse sur la joue. Crie le grand-père en faisant un bond en avant, puis retombe sur le lit, les yeux et la bouche crispés. Grand-père! Charles a toujours sa main dans la sienne. Grand-père! Charles se met à genoux et lui baise les mains. Le jour vient de se lever et éclaire petit à petit la pièce. Ce n'est que cela la mort. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai plus peur. Merci grand-père. Gilles m'a appris à vivre et toi, tu m'as enlevé la peur. Tu m'avais sanctifié et je suis libre. Je serai toujours dans mon corps. Pour que je sois un homme, je sais bien, toujours dans mon cœur, toujours.
L'oiseau qui nuit au paradis ne croit jamais ce qu'il te dit. L'oiseau qui chante est un menteur, l'amour non plus.
Le sol l'envahit, se sent calme et fort. Une nouvelle vie commence pour lui, une vie d'homme. Parmi les hommes, mais libre, c'est-à-dire en les restant pur. Libre en restant pur.
L'oiseau qui nuit au paradis.
lave des saules. Et les amours meurent un à un. J'irai pleurer sur ton épaule. Oiseau qui niche au paradis, ne crois jamais.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié, dont c'était la sixième et dernière partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement,